Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Alors pour commencer, je vais faire une petite parenthèse. Ça n'a pas un grand lien avec ce que je vais vous dire, mais c'est un petit lien avec l'histoire que je vais vous raconter juste après. C'est juste un extrait d'une newsletter que j'ai reçue cette semaine. Et je vais vous la lire. Bonjour, connaissez-vous l'index mondial de persécution des chrétiens? C'est un classement des 50 pays où les chrétiens souffrent le plus, publié chaque année et repris par les grands médias internationaux et nationaux, dont Le Figaro, Libération ou The Guardian. C'est un outil important pour notre action en faveur de l'Église persécutée. Il sort le mercredi 18 janvier pour la presse et le grand public. Alors pour ceux qui l'ont reçu, ou qui savent ce qu'est l'index mondial de persécution des chrétiens, vous aurez sans doute compris que ce mail provient de l'association Porte Ouverte, qui œuvre parmi les chrétiens persécutés dans le monde, et qui publie régulièrement un indice, pays par pays, de la persécution des chrétiens, dans les lieux qui sont malheureusement concernés par ça. Et pour ceux qui sont intéressés, donc une petite parenthèse, une petite info à vous donner, Porte Ouverte organise un rendez-vous donc en direct, le mercredi 20 janvier, à 20h, sur leur site internet. Je ferme la parenthèse. Vendredi. Qu'est-ce que j'ai dit? Mercredi. Oui. Pardon. Mercredi 20 janvier. Vendredi. Je vais y arriver. Vendredi 20 janvier. Tout le monde a un calendrier. Je pense que vous pourrez voir. C'est le 20 janvier à 20h. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et je vais maintenant vous raconter une courte histoire en introduction de ce message. Alors, nous sommes dans une région du Moyen-Orient où les chrétiens sont persécutés, où ils sont chassés, où ils sont emprisonnés et aussi tués. Bref, il ne fait pas bon y être un disciple du Christ. Dans cette région, un jeune homme bien placé dans la société religieuse de son pays, d'environ la trentaine, un jeune homme ambitieux, zélé, carriériste et déterminé à faire avancer sa cause, se voit investi d'une mission particulière. Cette mission, c'est d'exterminer les membres de cette secte appelée chrétien. Alors il a un sang-froid terrible. Des personnes sont exécutées devant lui sans que ça ne le gêne. Et il approuve des meurtres sordides pour défendre ses idées. Alors un jour, ce jeune homme, il a une idée terrible. Comme il se trouve pas loin de la Syrie, il veut monter à Damas pour y travailler. Parce qu'en effet, en tant que persécuteur professionnel, il veut y trouver des chrétiens, donc hommes et femmes, pour les capturer. Et il obtient pour ça des autorisations officielles pour cette quête malheureuse. Il se met donc en chemin. Et tout se passe bien. Il part avec quelques personnes de son entourage et sans doute quelques bagages aussi. Tout à coup, sur le coup de midi à peu près, cet homme tombe à terre. Ceux qui l'accompagnent sont très, très étonnés et ont aussi peur. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui dit, j'ai vu une énorme lumière. Une énorme lumière autour de lui. L'autre dit, moi j'ai entendu comme une voix, mais je n'ai vu personne et je n'ai pas compris ce qui était dit. Notre homme se relève, mais il ne voit plus rien. Il est devenu aveugle. Ses amis l'ont donc aidé à marcher et l'ont amené jusqu'à Damas, qui était sa première destination. Voilà, fin de l'histoire. Alors, vous l'aurez compris ou pas, cette histoire est celle de la conversion de Paul, de Saul plutôt, à l'époque, qui sera renommé Paul par la suite. Et pour bien nous remémorer le récit exact, je vais vous lire donc le texte qui est dans Actes, chapitre 9, des versets 1 à 8. Ça ne sera pas projeté, puisque je suis là et non pas là-bas. Mais je vais vous le lire. Acte chapitre 9, versets 1 à 8. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigea donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. C'est un récit de conversion radicale et complètement et très impressionnant. Alors à travers ce texte, aujourd'hui, ce matin, je vous propose de voir 2 points. Premièrement, Dieu à la source de notre appel. Et deuxièmement, Dieu la finalité de notre salut. À la source de notre appel, donc pas de place ici pour le mérite. Et à la finalité de notre salut, pas de place ici pour l'égocentrisme. Alors on l'a vu, Saul est un persécuteur professionnel. Son voyage pour Damas était intentionnellement mal motivé. Il voulait, passez-moi l'expression, bouffer du chrétien, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Voyons brièvement son passé et essayons un peu de savoir pourquoi il voulait faire ce genre de choses. Alors, on l'a vu avec les prédications que Michael nous a données sur Philippiens. Saul était d'origine juive, donc c'était un pharisien. Il était attaché à sa religion, qui était donc le judaïsme. Il était particulièrement zélé pour la défendre. Donc il le dit lui-même dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, qu'on a déjà vu. Il dit « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Alors l'histoire de la conversion se passe durant les prémices du christianisme. Jésus est déjà monté au ciel, ses apôtres commencent à évangéliser et l'Église grandit de plus en plus. Il est intéressant de préciser que Saul n'a jamais rencontré Jésus en chair et en os. Il sait que Jésus, qui est en quelque sorte le gourou de cette nouvelle secte, puisque c'est considéré comme une secte, le christianisme, il sait que Jésus est déjà mort. Donc pour lui, il ne reste plus qu'à éliminer les quelques personnes qui suivent encore cette religion pour pouvoir anéantir totalement cette religion qui menace véritablement la sienne. Nous voyons les premiers récits de la vie de Saul au début du chapitre 8 du livre des Actes, un peu plus en amont de notre texte, où on peut lire ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc il avait une volonté concrète, en fait, de plaire à son Dieu. Et il voulait éliminer toute concurrence. Et la concurrence la plus terrible pour lui, c'était la doctrine du Christ. Il voulait sans doute obéir à ce commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et il voulait le faire appliquer à tous, par la force. D'une certaine manière, on peut dire que Saul était sincère dans sa démarche de plaire à Dieu, mais qu'il était surtout sincèrement dans l'erreur. quand on voit un peu la vie de cet homme, la première réaction qu'on peut avoir, c'est « c'est pas vraiment le type de personne qui mériterait le salut, quelqu'un comme ça. » Et le voilà donc en chemin vers Damas pour poursuivre son projet macabre de tuer les chrétiens. Et là, l'impensable se produit. Jésus vient à sa rencontre, Jésus en personne. Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Alors à travers ça, on peut remarquer trois choses dans cette question. Premièrement, c'est un appel personnel. Jésus appelle Saul par son prénom et ses compagnons de voyage, bien qu'ils entendent des voix, ne distinguent pas ce qui est dit. Donc on peut l'affirmer lorsqu'on met en parallèle ce récit qu'on vient de lire avec le récit que Saul lui-même fait de cette scène au chapitre 2 des Actes, où il dit « Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui parlait. » Donc Jésus voulait parler et appeler personnellement Saul, et Saul seul parmi toutes les personnes qui étaient présentes. C'était le seul à avoir entendu les voix et avoir compris. Enfin, tous ont entendu les voix, mais c'était le seul à avoir compris et avoir entendu son nom. Deuxièmement, c'est Jésus qui est à l'initiative, puisque c'est lui qui vient et qui interpelle Saul en premier. Saul n'a pas cherché Jésus. Jésus est venu à sa rencontre. Troisièmement, Jésus annonce directement la couleur. Il dit à Saul, « Tu me persécutes et tu n'es pas en train de me suivre. » Alors, quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer? Je vous propose quelques pistes. Premièrement, Dieu est à l'initiative de notre salut. Nous n'avons rien à voir dans le fait que nous soyons sauvés. C'est de l'ordre de sa seule grâce et de sa seule volonté. Aucune personne ne mérite le salut, aussi pieuse soit-elle. Paul, on l'a vu dans le parcours sur les Philippiens, il avait l'apparence de la piété. Ensuite, il a gravement péché en persécutant l'Église, mais il a reçu le salut par la grâce et par la grâce seule. Jésus le déclare d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 6, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Voyons ce que Saul même lui-même dit dans ses écrits, dans ses épîtres. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 par exemple, il dit « Il m'est aussi apparu à moi l'avorton. » 1 Corinthiens 9, « N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Galates 1, « Dieu a jugé bon de révéler en moi son Fils. » Et Philippiens 3, « J'ai été saisi moi-même par le Christ Jésus. » Dieu est à l'initiative de notre salut. Autre enseignement, si nous disons que nous ne persécutons pas Jésus, alors que nous faisons comme s'il n'existait pas dans notre vie, on peut dire que finalement nous sommes peut-être contre lui. Jésus dit lui-même dans Matthieu 12, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Prenons donc garde de ne pas être contre Jésus et de ne pas disperser. Troisièmement, aucun cas n'est désespéré, puisque de toute façon notre salut ne dépend pas de nous, mais de Dieu. S'il existait des cas désespérés, je pense que Saul en faisait partie, et moi aussi. Dieu est à la source de notre appel, et de ce fait, il n'y a pas de place pour le mérite et l'autosatisfaction. Aujourd'hui est encore un jour où Dieu nous fait la grâce de renouveler cet appel. Mais comment répondre à cet appel et comment vivre conformément à sa volonté. Voyons maintenant la deuxième partie que je souhaiterais vous partager. Dieu, après qu'il soit la source de notre appel, il est aussi la finalité de notre salut. Dans notre récit, Jésus a posé la question à Saul en ces termes. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et à cela, Saul lui répond par une question. « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Alors le terme grec pour « Seigneur » ici est le mot « kurios » qui induit une suprématie et qui est un titre donné notamment pour Dieu et pour le Messie. Et c'est le même terme d'ailleurs qui est employé, par exemple, toutes les fois où il est question de Jésus. Alors, je ne sais pas vous, mais lorsque je suis pris par surprise ou interpellé par un inconnu, je ne rajoute pas forcément un titre derrière ma question, parce que si on est interpellé par un inconnu, on se limiterait par exemple à « Mais qui es-tu ?» ou de manière un peu plus familière « Mais t'es qui toi ?» En posant cette question, il me semble que Saul savait déjà à qui il avait affaire, en quelque sorte. Parce qu'ainsi, à la question « Qui es-tu ?», il rajoute le terme « Seigneur ». Plus qu'une marque de respect ou de peur due à la surprise, il montre ici déjà un signe de soumission. Il est tombé à terre, il pose la question « Qui es-tu, Seigneur ?». Lorsque Jésus lui dit ensuite « Je suis Jésus que tu persécutes », sûrement Saul a compris que celui qu'il croyait mort, enterré et disparu, est en fait ressuscité, vivant et agissant. Jésus, en redisant qu'il est persécuté, voulait faire comprendre à Saul que sa persécution des chrétiens vise et affecte directement le Christ lui-même. Et Saul, il a une autre réaction à cela. Il pose une autre question, une deuxième question. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ou « Que dois-je faire ?» Alors, ce verset n'est pas présent dans toutes les versions, mais toujours est-il que lorsqu'on lit le récit parallèle raconté par Paul au chapitre 22, la question est présente dans toutes les versions. Donc, on peut en conclure que c'est bien une question qui a été posée. Saul, en réaffirmant une deuxième fois sa soumission au Christ, veut faire sa volonté. Et Jésus ainsi lui indique ce qu'il doit faire, et après Saul n'a plus qu'à s'exécuter. Les deux questions que Saul pose à Jésus ici reflètent deux aspects fondamentaux de notre vie de disciple. Alors premièrement, la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ. Un disciple, un vrai, cherche à apprendre de son maître et à connaître son maître. Alors, il faut ici mettre une nuance entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Nous connaissons des choses sur ce que nos ancêtres les Gaulois, enfin, pas tous, ce que nos ancêtres les Gaulois ont vécu, mais nous connaissons aussi nos parents, et nos enfants. Nous n'avons pas eu de relation directe avec les Gaulois, mais par contre, nous côtoyons régulièrement nos parents, nos enfants, nos proches. De la même manière, si tu considères que Jésus-Christ est Dieu, si tu le considères comme un ancêtre, tu ne le connais pas. En revanche, puisque Dieu est un Dieu vivant, si tu as une relation étroite avec lui, si tu apprends à le connaître de plus en plus. Différence entre des connaissances sur Dieu et connaître Dieu. Deuxièmement, l'obéissance envers Dieu. Lorsque tu aimes tes proches, lorsque tu aimes les membres de ta famille, tu feras en sorte de leur faire plaisir quelquefois au milieu de toutes les vacheries que tu peux leur faire. J'ai des frères et sœurs, donc je sais ce que c'est. Lorsque tu aimes Dieu et que tu l'aimes de tout ton cœur, tu ne chercheras même pas à lui faire des vacheries. Tu feras sa volonté et tu ne feras pas que la rechercher, tu la feras. Alors comment réponds-tu à l'appel de Dieu ? Est-ce par l'indifférence, par le mépris, par le déni, par la rébellion peut-être ? Ou est-ce par ces deux questions ? Qui es-tu, Seigneur ? Et Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Es-tu en train de chercher et de connaître ton Dieu et de faire sa volonté ? Ou es-tu en train de te faire connaître, plutôt, de construire une réputation et d'assouvir tes propres désirs ? Saul, à partir de cet événement qu'on a étudié, a changé radicalement de voie. Il a changé d'objectif, il a changé de priorité, il a changé de volonté. Alors je vous propose de lire la suite d'un verset que nous avons lu au début, et que nous avons déjà lu d'ailleurs par la série sur Philippiens, au chapitre 3, et des versets 4 à 11. C'est Paul qui parle. « Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Et pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. » Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Comme le disait Don Carson, un théologien américain, dans une de ses prédications, les vrais disciples de Christ sont prêts à tout perdre afin de tout gagner. Perdre ce qu'ils ne peuvent pas garder pour gagner ce qu'ils ne peuvent pas perdre. Saul, ou Paul désormais, a accepté de tout perdre pour tout gagner. Durant cet événement spectaculaire de sa conversion, il a été humilié totalement, mais par cet acte, il est devenu humble par la suite. Son humiliation a conduit à son humilité. Alors pour résumer, chers amis, je voudrais dire qu'il faut que tu t'attendes à ce que Dieu t'appelle. Et peut-être ce jour, peut-être aujourd'hui et ce jour. Alors il ne t'appelle pas parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu es riche, tu es zélé, tu es gentil. Il t'appelle parce qu'il en a décidé ainsi. Et ça ne dépend pas de toi. Si tu as déjà répondu à cet appel, alors entretiens une relation forte et étroite avec ton Dieu. Car en comprenant qui il est, tu seras disposé à faire sa volonté. Et faire sa volonté sera pour toi un sujet de joie et non pas une tâche totalement ingrate ou fatigante. Si aujourd'hui tu te sens fatigué dans ton ministère, dans ton service, demande à ce que Dieu se révèle encore plus à toi, à ce que tu puisses encore une fois t'émerveiller devant sa personne et son œuvre. Tu n'es pas la finalité de ton salut. Dieu l'est. Alors repose-toi sur lui et vis une vie christocentrée, centrée sur Christ. Alors je reconnais que bien des fois, je fais les choses en murmurant parce que je manque de cette relation profonde avec celui que je sers, que j'ai besoin toujours d'un renouvellement dans ma relation à Christ, et peut-être que toi aussi, aujourd'hui. Alors nous sommes déjà mi-janvier, le 15, et c'est le temps où les résolutions prises en début d'année, pour ceux qui en prennent, commencent à être un peu oubliées. On commence à négocier avec soi-même ou on négocie avec les autres pour revoir un peu à la baisse nos ambitions, voire reporter un peu les échéances. Oui, peut-être que je serai un peu plus motivé dans quelques semaines. Ouais, j'ai peut-être parlé un peu trop vite en voulant faire ça, en voulant accomplir ça. C'est pas aussi facile que je le pensais. Bon, allez, je me donne une année de plus pour y réfléchir. Oh, et puis tant pis, je suis bien comme je suis. On abandonne. Alors, il faut se l'avouer, peu arrivent vraiment à opérer un changement radical dans leurs habitudes et leur train de vie. Ou en tout cas, peu tiennent le coup, plusieurs mois. Alors pour ma part, j'oublie la période des prises de résolution pour éviter les désillusions après quelques semaines. Donc je n'en prends pas personnellement. À l'heure où aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, nous nous préoccupons principalement de notre bien-être physique et moral, et nous délaissons bien facilement notre santé spirituelle, je voudrais reprendre le thème de la prédication de Michaël de la semaine dernière, pour nous souhaiter pour cette année 2023 de ressembler toujours plus à Jésus, de le connaître de mieux en mieux. Alors je vous dis ça aussi pour vous dire que vous avez toujours la possibilité de réécouter ce message sur notre site internet si, comme moi, vous avez déjà oublié 90% de ce qu'il a dit. Désolé Michaël. Voilà, j'aimerais juste terminer ce message en vous lisant les paroles de ce chant que j'apprécie particulièrement et qui fait aussi écho à l'enseignement de Paul dans son épître aux Philippiens. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur, toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Vivre de ta résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. »